Fausse Info.
Le débrief éco du dimanche soir en partenariat avec le Cercle des économistes. 20 minutes de débat sur les principaux thèmes économiques et sociaux qui vont alimenter la campagne électorale. Emmanuel Cugny est avec nous. Le premier débat de ce soir, Emmanuel, il porte sur le bilan de l'année écoulée et de ses conséquences pour l'avenir.
Bonsoir, merci de nous rejoindre en ce jour de l'an. L'actualité ne s'arrête pas, bien sûr, la campagne pour l'élection présidentielle non plus. D'ailleurs, elle va repartir de plus belle après les fêtes pour entrer dans sa dernière ligne droite. Au sommaire du débrief éco ce soir, les politiques de sortie de crise, l'état des banques et puis quelle énergie pour demain. Alors, ce sont trois thèmes bien éloignés, direz-vous, c'est vrai, si ce n'est qu'ils nous permettent de dresser un bilan de l'année écoulée et puis d'envisager évidemment 2017. Alors, espérons sous de meilleurs auspices. Voyons cela avec nos deux débatteurs, Jean-Marie Chevalier du Cercle des économistes et Dominique Plion, économiste, porte-parole du mouvement Attac. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Il n'est pas trop tard, évidemment, pour vous souhaiter une bonne année. Donc, c'est avec plaisir que nous le faisons sur France Info. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 et on commence donc par le bilan 2016. Que peut-on dire des politiques de sortie de crise ? Ont-elles été efficaces ? On voit le chômage baisser depuis plusieurs mois consécutifs. On l'a vu pour le mois de novembre notamment. C'est du jamais vu depuis le début de la crise en 2008. Ça va mieux visiblement, Jean-Marie Chevalier ?
Moi, je dirais qu'il y a une espèce de rupture entre le macro classique et la microéconomie. C'est-à-dire que, bon, il y a les chiffres du chômage, etc., ça baisse, mais c'est quand même très fragile parce qu'on n'a pas
une croissance suffisante.
Et puis, il y a tout ce qui se passe du point de vue microéconomique, c'est tout ce qui est derrière Uber et les créations de start-up et les créations de nouvelles entreprises, etc., où là, à mon avis, ça a pris de l'effervescence en 2016, et donc ça, c'est plutôt une bonne chose, une bonne nouvelle.
Qui crée une dynamique, en fait.
Et l'idée, c'est que la sortie de crise, il y aura peut-être plus du micro que du macro. Mmh.
Dominique Plion, est-ce que vous partagez ce point de vue de Jean-Marie Chevalier ?
Cette année 2016, puisqu'il s'agit de faire un peu le bilan, il y a la France, mais quand on regarde tout ce qui s'est passé, je cite des événements rapidement, il y a eu le Brexit, il y a eu l'élection de Donald Trump, il y a eu l'échec de Renzi à son référendum, et puis le renoncement de François Hollande à se représenter. Et à chaque fois, je pense que la raison derrière, c'est le constat d'une défiance des populations qui sont très largement affectées par la crise. Et qui
c'est l'impact direct de l'économie sur le système électoral.
Je pense que oui, c'est ça. Je pense. Et même s'il y a des progrès dans le sens où certaines catégories de chômeurs à plein temps, la catégorie A, diminue, c'est les derniers chiffres qui sont tombés cette semaine. On s'aperçoit que quand même globalement, si on prend les catégories A, B et C, il y a une augmentation du chômage et il y a une situation de précarisation de l'emploi. Et donc, il y a un sentiment de déclassement, je pense, d'une partie de la population qui fait qu'aujourd'hui, la perception générale, c'est une question de perception, mais aussi une réalité, les politiques économiques ne sont pas perçues comme étant couronnées de succès, loin de là.
Jean-Marie Chevalier ?
Oui, ce qui est pas grave, d'ailleurs, ce que dit Dominique Plion sur ce qu'il y a eu du point de vue électoral, Trump, Brexit, Renzi, c'est la circulation de la fausse information par les réseaux sociaux. Et ça, c'est quand même dans les trois cas, on a eu des fausses informations économiques, qui qu'elles soient démenties ou pas. Ça marche. Et ça marche par les réseaux sociaux. Et ça, c'est quand même un phénomène nouveau qui est très inquiétant pour nous, économistes, qui sommes quand même soucieux d'une certaine rigueur et de la vérité économique.
Dominique Plion.
Alors, je suis complètement d'accord. Les réseaux sociaux ont joué un rôle très important. Il y a eu des mensonges, y compris proférés d'ailleurs par les candidats eux-mêmes, notamment à Donald Trump. Ceci dit, il y a quand même une réalité. Je pense que la crise liée à la désindustrialisation d'une partie du centre des États-Unis ou bien du côté des Grands Lacs, Détroit par exemple, la région Détroit, du sud-est de l'Angleterre, ce qui explique aussi le Brexit, par exemple, explique très largement aussi cette réalité d'une partie importante de la population qui aujourd'hui est marginalisée, précarisée. Et donc, ce ne sont pas que des mensonges.
Et qui veut tourner la page, finalement.
Et oui, qui voudraient d'autres politiques. Alors, elles se font peut-être des illusions, je pense très largement, sur les propositions qui leur sont faites par les candidats qui se présentent à leur suffrage, comme Donald Trump. Mais c'est une réalité. Il y a une volonté de tourner la page, en effet, et d'avoir des politiques économiques alternatives.
Mais est-ce qu'on peut franchir le pas et avoir de nouvelles, vraiment réelles politiques novatrices,
je dirais, Jean-Marie Chevalier ? Je ne crois pas à ce l'instant, puisque Trump Il a été élu par des classes plutôt populaires qui souffrent effectivement dans les États du Middle West, etc., et qui a fait une politique avec les plus conservateurs qu'on puisse trouver sur le territoire américain. Donc il y a quand même une contradiction majeure. Il va pas faire une politique économique nouvelle qui va permettre de réduire les fractures qui ont été dénoncées pendant sa campagne.
C'est le risque,
alors,
effectivement, Dominique
Pilon. Il y a une contradiction profonde dans ce que propose Trump, mais quand même, il y a une chose qui est intéressante. Je ne défendrai pas Trump, mais il y a un point important, c'est la politique d'investissement massif en infrastructures de 1 000 milliards de dollars qu'il veut lancer. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin aussi en Europe d'une politique de ce type-là. Par exemple, et je pense que Jean-Marie Chevalier sera d'accord avec moi,
Trump, alors,
pour accompagner la transition énergétique. Mais non, il y a un vrai problème aujourd'hui d'insuffisance de l'investissement en général et notamment de l'investissement public de long terme. Et je pense que Trump, là... Alors on va voir s'il va être capable de la mettre en œuvre, cette mesure. Mais je pense que l'idée d'avoir une politique d'investissement ambitieuse fait partie des nécessités de la période actuelle.
Jean-Marie Chevalier.
Oui, alors sauf que investissement politique ambitieuse, c'est dans des infrastructures intelligentes. Et donc, ce n'est pas une mobilisation des travailleurs lambda comme on pouvait le faire autrefois. Ce sont des nouvelles infrastructures dont on a besoin, qui vont être créées. Mais je ne suis pas sûr qu'elle soit très, très créatrice d'emplois.
Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y aura des infrastructures de transport, par exemple, ou des infrastructures dans le domaine du logement et de l'urbanisation qui peuvent être créatrices d'emplois. Donc je pense qu'il y aura les deux. Il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Je pense qu'on ne peut pas uniquement penser en termes de nouvelles technologies pour penser à ces nouveaux plans d'investissement.
Attention, parce que quand même, dans ces infrastructures, il y a tout l'entretien des vieilles infrastructures qui sont dans un état déplorable dans la plupart des grands pays industrialisés et qui coûtent très cher à remettre en... Et puis on se demande si on en a vraiment besoin. Oui. Donc il y a un problème très, très compliqué à régler.
Mais restons en Europe. Regardons par
Dominique
exemple la question du ferroutage. Je pense qu'en Europe, on est très en retard ou en deçà de ce qu'on devrait faire par rapport à la question du transport des marchandises et notamment du ferroutage pour des raisons notamment écologiques. Et c'est tout à fait fondamental. Donc je pense que les infrastructures lourdes, qui sont assez traditionnelles, sont absolument fondamentales.
Jean-Marie Chevalier, ça fait 20 ans qu'on le dit et que rien n'est fait pratiquement.
Oui, c'est bien ce que je dis.
Ni par la gauche, ni par la
droite. Ben oui, mais il faut le faire. Si on ne le fait pas, on est en contradiction avec les objectifs, notamment de la COP21 et de la COP22.
Alors, il y a les prochaines échéances électorales, dont en France, bien sûr, qui seront l'occasion, normalement, pour, je ne vais plus dire les candidats, mais en tout cas pour le prochain président de la République. Mais est-ce qu'il peut réellement agir très vite? Finalement, est-ce qu'un quinquennat pour faire tout cela, c'est suffisant, Dominique Pilon?
Non, c'est sûr que ça s'inscrit dans le long terme. Ce n'est pas un quinquennat. Malheureusement, en plus, le régime, le système politique que nous avons est tel que ça ne favorise pas des décisions de long terme des élus. Et c'est un travail de long terme qui nécessite une stabilité et, disons, une continuité dans les politiques.
Jean-Marie Chevalier.
Oui, là encore, je vois des obstacles. Si on regarde qui va faire ces infrastructures, SNCF, EDF, qui sont dans des situations financières extrêmement difficiles. Donc, le financement d'un plan d'infrastructure me paraît poser des problèmes très délicats.
Alors, nous allons marquer une très courte pause, le temps des titres de l'actualité.
Et voilà, Emmanuel, on va se retrouver dans un instant pour parler des perspectives pour 2017.
France Info.
La suite du débrief éco avec vous, Emmanuel Cuny, Jean-Marie Chevalier du Cercle des économistes et Dominique Pilon du think tank ATTAC. Parlons de l'avenir maintenant et des enjeux pour 2017.
Oui, Catherine Potier, on va maintenant se projeter en 2017 en se focalisant sur deux autres secteurs. Nous avons commencé à évoquer dans la première partie de ce débrief éco il y a quelques minutes des questions importantes que devront régler les prochains, en tout cas le prochain président de la République pour ce qui est de la France. Mais l'année 2016 a également été marquée par un sujet qui nous concerne toutes et tous, c'est l'énergie. Alors, Jean-Marie Chevalier, quel bilan dressez-vous de l'année 2016? On a vu les prix du pétrole, on a vu les prix de l'énergie au sens large.
C'est compliqué. Ce qui a été nouveau, ça a été la conférence d'Alger en octobre, qui était une conférence avec les pays de l'OPEP et des pays non-OPEP, et où il y a eu une résolution de prise de diminuer la production pour essayer de faire remonter les prix. Ces prix, qui étaient à un niveau donc assez faible et qui étaient dramatiques pour un certain nombre de pays exportateurs de pétrole, comme l'Algérie, le Nigeria, le Venezuela, l'Iran, l'Irak, etc. Alors, ça a été confirmé par la réunion de l'OPEP du 30 novembre, mais avec quand même un changement majeur qui n'a pas été souligné suffisamment, c'est que ce qui est nouveau en 2016, c'est que les trois principaux producteurs de pétrole, c'est les États-Unis, contre toute attente, la Russie et l'Arabie saoudite. Et que donc on a une situation dans laquelle l'OPEP essaye encore de réguler la production, mais ne peut pas réguler la production américaine. Et donc on a une espèce de contradiction dans le fait que les Américains jamais ne se mettront dans une situation de réduction de production, puisque ce sont des centaines d'entreprises qui décident elles-mêmes du niveau de production dont elles ont envie, et que par ailleurs, si les prix remontent, ça va pousser encore la production américaine de pétrole non conventionnel.
Donc la situation que l'on a connue en 2016, on va la retrouver en 2017.
Je pense, oui, avec des incertitudes.
Toutes les conséquences pour le consommateur, finalement.
Absolument.
Sur notre consommation de gaz chez les particuliers, l'électricité.
Alors, les prix du gaz, c'est très différent. C'est là encore l'arrivée du gaz américain dont on ne pensait pas qu'il viendra en Europe et qui renforce la concurrence avec le gaz algérien ou russe ou norvégien.
Dominique Lyon sur ce
point.
Oui,
cette question du niveau très bas des prix du pétrole soulève un autre problème. C'est la question de la substitution souhaitable des énergies renouvelables et non carbonées au pétrole et aux énergies fossiles en général par rapport à la question du climat. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je pense qu'il ne faut pas se focaliser que sur le pétrole. Il faut de plus en plus penser en termes d'énergie de substitution.
Jean-Marie Chevalier.
Dominique, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que quand même 80% de notre consommation énergétique vient pour l'instant du pétrole, du gaz et du charbon.
On est
et que ça ne se modifie pas en quelques
mais que
mois.
Les prix,
quelques
et que les prix très bas ne favorisent pas ces substitutions.
Ah ben non,
on est d'accord.
Sûr,
donc il faut aller vers des énergies renouvelables et non carbonées.
Oui,
c'est quand même un des objectifs.
On y va lentement.
C'est un sujet inépuisable.
Trop lentement par rapport
en
à la question du climat.
C'est un sujet inépuisable, contrairement aux ressources en elles-mêmes. Alors, l'autre sujet qui a agité l'actualité en 2016 et qui va se retrouver cette année en 2017, c'est le secteur bancaire. Après la crise, la situation s'était un peu calmée avant que les banques allemandes et italiennes surtout ne reviennent sur le devant de la scène. Est-ce que la crise bancaire est derrière nous, Dominique Plion ?
Non, je crains qu'il y ait un risque. Rien n'est sûr, hein, mais il y a un risque de rebond de la crise bancaire. Pourquoi ? Bien parce qu'en effet, il y a un pays qui est un des plus importants d'Europe, qui est l'Italie, dont le système bancaire est en situation très, très inquiétante. À commencer par ça, la banque la plus vieille d'Italie, qui est la Monte dei Paschi di Siena, qui est en faillite. Et le fait que les Italiens, les banques italiennes ont, je crois, des créances douteuses dans leur bilan de l'ordre de 350 milliards d'euros. C'est 20% du PIB. C'est catastrophique.
C'est le tiers des créances douteuses de l'ensemble de l'Europe.
Exactement. Donc il y a un vrai problème. Et il y a un deuxième pays qui, lui, est moins instable politiquement et économiquement, mais qui est quand même touché par cette crise bancaire, c'est l'Allemagne avec la plus grande banque allemande, la Deutsche Bank, qui est en situation aussi de quasi faillite.
Mais est-ce que la situation des États est quand même différente ?
Bien entendu. Et alors, je voudrais signaler qu'il y a un double cercle vicieux, si je peux le faire.
Allez-y.
Premièrement, la situation économique, qui est quand même très mauvaise dans beaucoup de ces pays-là, c'est-à-dire une croissance lente, une quasi-stagnation, fait que les banques ont des créances douteuses abondantes, parce que beaucoup d'entreprises sont en difficulté. Mais qu'en même temps, les banques étant en difficulté, elles ne sont plus en mesure de porter et d'aider les entreprises qui auraient besoin de redémarrer l'investissement. Donc il y a un vrai problème. Il y a un deuxième cercle vicieux, c'est vers les finances publiques. C'est qu'aujourd'hui, on voit que les gouvernements, à commencer par le gouvernement italien, mais aussi le gouvernement allemand, sont obligés de recapitaliser les banques qui sont en difficulté, ce qui aggrave la situation des finances publiques. Et qui détient les titres publics en général, ce sont eux-mêmes des banques, très souvent.
Jean-Marie Chevalier, en tant qu'économiste, vous voyez comment évoluer les choses. Il y a vraiment un risque d'effet domino en Europe, un risque systémique ?
Absolument, oui. Absolument.
Vous pensez que
je
d'autres...
crois qu'il y a un troisième cercle vicieux, c'est celui de la régulation. C'est qu'on a cherché depuis 2008 à mettre en place des systèmes de régulation et que ça, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas et ça montre à quel point les gouvernements sont un peu prisonniers d'une capture par les banques. Et ça, c'est grave.
Ouais.
Et là, il n'y a rien eu de changé. Regardez la loi Dodd-Frank aux États-Unis, qui est considérée comme l'une des lois les plus sophistiquées en matière de régulation.
On peut rappeler très rapidement ce qu'elle prévoit, cette loi Dodd-Frank.
C'est une loi qui prévoit plus de transparence sur les transactions, plus de contreparties et d'assurances sur les transactions qui sont opérées, plus de sécurité pour les consommateurs. Et cette loi Dodd-Frank, qui a besoin d'une centaine d'arrêtés d'application par les différents régulateurs, les gens de la SEC disent « Elle est bien cette loi, mais on n'a pas les moyens ni humains ni financiers de l'appliquer. » Donc c'est dramatique, ça.
On va revenir à la crise de 2008, Dominique Plion. Il y a des risques, là, vraiment ?
risque de rebond, mais qui prendra évidemment des formes différentes. Je voudrais juste dire que je suis complètement d'accord avec l'analyse pas très optimiste que fait Jean-Marie Chevalier. Il a parlé à juste titre des États-Unis. Mais parlons aussi de l'Europe. En Europe, aujourd'hui, nous avons des réformes qui sont minimales, en stand-by. Par exemple, je prends le cas de l'Union bancaire européenne qui prévoit un système de résolution, c'est-à-dire de traitement des faillites bancaires, des défaillances bancaires. Eh bien, il y a des blocages, il y a une lenteur, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les gouvernements qui sont toujours en première ligne pour s'attaquer à éviter ces faillites qui pourraient donner lieu à des mouvements, disons, de contagion. Et donc ça, c'est quelque chose de relativement inquiétant.
Jean-Marie Chevalier, sur ce point.
Oui, tout à fait d'accord. Et donc, on a des risques d'apparition de bulles.
Je peux me permettre de rajouter qu'aujourd'hui, il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que les États-Unis. Maintenant, il y a le monde émergent, et en particulier un pays comme la Chine, qui aujourd'hui a un système financier très, très fragilisé par la bulle immobilière, par des banques qui sont avec des créances douteuses extrêmement importantes, par un shadow banking, c'est-à-dire un système bancaire peu régulé, ce qui peut paraître paradoxal pour un pays comme la Chine, qui est fortement contrôlé par un système politique assez fort. Eh bien non. Et là, on pourrait penser que le prochain soubresaut bancaire pourrait venir des pays émergents et avoir un effet de contagion sur les pays développés.
Eh bien, affaire à suivre, en tout cas, et notamment en 2017. Alors, j'allais vous souhaiter encore une bonne année. Bon, malgré ce qui vient d'être dit, on le fait quand même. Merci à tous les deux. Jean-Marie Chevalier du Cercle des économistes, Dominique Plion, des économistes atterrés, et bien sûr du mouvement Attaque. À la semaine prochaine.
À dimanche, Emmanuel.